Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et si vous avez raté le reste de l'émission, on est ensemble à l'antenne en direct depuis 15h30, ne ratez pas, en l'occurrence, nos replays, notamment sur notre site BFM Bourse. John Plassard, il nous accompagnait à 15h30 tout à l'heure dans USA Today, et il nous parlait de l'importance de cette journée pour Donald Trump. Donald Trump qui aura besoin d'une caution dans un procès en civil. Et cette caution, il espère l'obtenir, l'argent de la caution, il espère l'obtenir grâce à la bourse, en introduisant en bourse ses médias et réseaux sociaux pour plus de 3 milliards de dollars, ce qui est d'ailleurs assez cher quand même. On en parlait avec John Plassard. Replay disponible, vous pouvez le consulter. Il est désormais en ligne sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Quel potentiel en bourse sur les marchés? Daniel Gérineau et Louis de Montalembert sont avec nous, nos deux coéquipiers du club. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Louis de Montalembert est le président de Pléiade AM. Daniel Gérineau, le PDG de Carlton Sélection. Merci de nous avoir rejoints ce soir. On termine le premier trimestre, là. Dernière semaine du trimestre. Beau trimestre. Le Nasdaq, le S&P ont gagné 9%. Le CAC, depuis le début de l'année, gagne, lui, 7%. Beau trimestre, mais en fait, on a déjà fait beaucoup mieux au premier trimestre. Effectivement, Wall Street n'est en train de vivre que son 15e meilleur début d'année. Qu'est-ce que ça vous inspire, Daniel? Est-ce que vous dites que même si Wall Street a encore progressé depuis le 1er janvier, il reste beaucoup de potentiel?
Juste un point. Depuis le 1er janvier 2022, la performance du S&P, vous avez une idée?
Ah, allez-y. Énorme.
Donc ça fait 2 ans et 3 mois. 9,8%. Je pense que c'est la réponse à la question que vous avez posée. Oui, effectivement, c'est un beau début d'année, mais quand vous regardez, vous avez le Nikkei qui fait 22%, le MIB en Italie qui fait 13%, et en gros, les indices européens et américains qui tournent entre 8, 7,5 et 11%. Donc c'est une belle perf, hein. C'est une performance qu'on attend généralement sur une année. Mais on vient de quand même assez loin. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est pas le présent ni le passé, il faut quand même regarder le futur. Et le futur, bah, c'est les bénéfices par action. Qu'est-ce qu'on attend comme bénéfices par action? Quel est le moteur qui va guider les performances futures? Il faut qu'il y ait du carburant dans la voiture, sinon elle n'avance pas. Bon, quand on regarde les bénéfices par action qu'on attend sur les États-Unis, c'est quand même 13%. C'est plutôt pas mal sur 2024. 5% pour l'Europe. Mmh. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une situation qui est un petit peu différente de celle que l'on pourrait analyser si on regarde juste le prisme du trimestre ou depuis le début de l'année 2023. Maintenant, quand on prend plus de champs et de recul, alors là, c'est assez amusant parce que si vous prenez 10 ans de recul, le Nasdaq, c'est 405%. Le S&P, c'est 180%. Le CAC 40, avec dividendes réinvestis, on est à 160%. Donc, vous voyez qu'il y a un complet décrochage entre les croissances économiques et les croissances des marchés boursiers.
C'est ça.
Et vous avez aussi des périodes qui se succèdent, où vous avez des baisses du marché, comme on a eu en 2022, et des rebonds. Mais comme vous le savez, quand vous avez perdu 10 ou 20%, pour revenir au même niveau, il faut 20 ou 30%. Donc on est un peu trompé par les chiffres en valeur absolue. Il faut les prendre plutôt en relatif. Donc nous, on est plutôt optimistes sur les marchés. On pense que les perspectives sont bonnes. Il y a une forme d'alignement de planète, pas totale, mais partielle aux États-Unis. On est un petit peu moins bullish sur l'Europe, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure.
Oui, et c'est vrai que si en pourcentage Wall Street, le S&P ne vit que son, c'est déjà bien quand même, son 15e meilleur début d'année, en nombre de points gagnés en 3 mois, là en revanche, on est vraiment sur le haut du haut du haut des meilleures années de Wall Street, des meilleurs débuts d'année de Wall Street. Qu'est-ce que ça vous inspire pour la suite? Parce qu'on essaie d'apporter chaque soir dans le club un coup d'avance pour la suite. Quel potentiel en bourse pour les prochains mois d'après vous, Louis?
En fait, il faut garder à l'esprit que, comme l'année dernière, ce rallye de début d'année reste concentré sur un nombre limité de valeurs. D'accord ? Donc, en fait, derrière, il faut débroussailler un peu et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de valeurs qui n'ont rien fait depuis le début de l'année. Alors, il est traditionnel de parler des small caps, hein, parce que maintenant, ça fait 5 ans qu'elles sous-performent les large caps. Et il est indéniable qu'à un moment ou l'autre, les small caps vont tirer leur épingle du jeu, mais nous, on est plus sur le logiciel. Depuis le début de l'année, le logiciel ne fait rien. En fait, on est vraiment dans un instant hardware, c'est les semi-conducteurs qui tirent le gros de la croissance. Et puis quelques entreprises qui ont annoncé des très bons résultats et qui ont eu des remontées de leurs cours. Mais au final, l'image est beaucoup plus contrastée que ce classement qui consiste à dire que les indices font une très bonne performance depuis le début de l'année.
Mais on voit quand même depuis quelques semaines un début de réveil, de rebond quand même d'un certain nombre de secteurs qui ne profitaient pas de la hausse des marchés ou qui n'étaient pas moteurs. Là, on les voit quand même à nouveau commencer à performer malgré tout.
Oui, mais pour l'instant, on a encore un Nvidia, je ne sais pas, qui a plus 90%, qui doit représenter sur les 10% du S&P 500 une part non négligeable. Et puis les méga cap tech tirent encore quand même le rallye qui a débuté en octobre de l'année dernière. Donc, ce qu'on peut voir pour l'avenir, effectivement, alors je suis parfaitement d'accord qu'on est sur une année qui est discriminante. Le discriminant, c'est principalement les résultats des entreprises. Hein, c'est ce qu'on a appris en 2023 à partir du premier trimestre. Ça a été le discriminant majeur, là où on avait une baisse indiscriminée en 2022 et plus particulièrement de la tech. Donc là, ça va être les résultats des entreprises. On a quand même des entreprises qui maintiennent des marges grâce à des gains de productivité qui sont satisfaisants. Et effectivement, on pourrait avoir ce qu'on appelle le « everything rally », c'est-à-dire pas uniquement la tech ou même le sommet de la tech qui tire les marchés, mais le reste des marchés qui commence à pousser. Alors, pour ça, il ne faut pas que le sommet s'effondre non plus, hein, parce que ce n'est pas forcément un jeu de chaises musicales dans lequel, si demain on a un Nvidia qui chute lourdement, ça va être compliqué d'amener le reste de la cote. Mais on peut volontiers imaginer qu'avec une stabilisation des méga cap tech, que derrière on commence à voir les investisseurs qui vont chercher des opportunités d'investissement, y compris en Europe, parce qu'effectivement l'Europe est nettement moins dynamique que les États-Unis. C'est triste à pleurer quand on le regarde, mais toute chose ayant une valeur, il y a un moment où on peut constater que les niveaux de valorisation en Europe peuvent éventuellement attirer des investisseurs. Je dis pourrait éventuellement, je disais le conditionnel, c'est pas une chose certaine, hein, ça fait tellement d'années qu'on dit non, cette année c'est l'année de l'Europe. Loin de moi l'idée de prôner l'année de l'Europe en 2024, mais néanmoins je pense quand même que des résultats d'entreprise tirés par des gains de productivité peuvent surprendre et faire une année 2024 qui peut être tout à fait intéressante.
Oui. Est-ce que derrière ces grands arbres, la tech américaine, le luxe ici en Europe, qui ont fortement poussé et porté à la hausse les marchés, on peut imaginer que la majorité silencieuse des valeurs en retard, qui ne performent pas autant, finissent par se réveiller? Est-ce qu'on voit les déclencheurs arriver là pour cette majorité silencieuse du marché?
C'est beaucoup plus compliqué, parce que en réalité, quand vous regardez ce qui a vraiment tiré les bourses, comme le disait lui tout à fait justement, c'est effectivement les valeurs de la tech, parce que c'est un marché très spécifique. Mais le reste, ce sont des marchés qui dépendent beaucoup du consommateur. Or, le consommateur, il faut qu'il ait de quoi consommer. Et on sait très bien que les taux d'épargne ne baissent pas en Europe. Ils ne baissent pas parce que les consommateurs veulent absolument maintenir un matelas de sécurité. Mmh. En Chine, c'est encore pire. Il n'y a qu'aux États-Unis où ça consomme, avec un taux d'épargne qui est à peu près 3,5 fois plus bas que l'Europe. Donc, pour les secteurs, c'est très compliqué. En plus, au niveau des marges, on voit très bien qu'il y a une augmentation du coût salarial, une augmentation l'an passé, mais surtout en 2022, des matières premières. Donc, il y a une compression des marges. Aujourd'hui, ils n'ont plus le pricing power pour pouvoir remonter les prix comme ils l'ont pu le faire en 2023. Ils sont capés. Or, la pression vient par le dessous, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on voit ce différentiel entre les croissances de bénéfices Europe et États-Unis, avec plein d'éléments qui militent plus pour les États-Unis que pour l'Europe, hormis certains secteurs comme le luxe. Nous, on est très investis sur le luxe, Hermès, LVMH, ce sont même plus des entreprises, c'est pas des entreprises locales, ce sont des entreprises mondiales. Mais il faut savoir aussi que les entreprises, et les indices plutôt, européens, les indices japonais, l'indice japonais et les indices anglais dépendent énormément de la conjoncture mondiale. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pratiquement en circuit fermé. Or, aux États-Unis, la croissance, elle est robuste. On va être entre 2 et 2,5 cette année, ce qui est assez remarquable.
Incroyable, hein, ouais.
Pendant que nous, on va se traîner à 0,5. Donc, on est quand même, lorsque l'on fait le bilan, on s'aperçoit qu'il y a quand même énormément de paramètres qui sont plutôt positifs pour les États-Unis et plutôt contraignants pour l'Europe, compte non tenu, évidemment, oui, de certains secteurs pour lesquels il y a des exceptions. Hein. On peut parler du secteur de la santé avec Novo Nordisk, on peut parler du secteur du luxe, on peut parler de l'aéronautique ou de la défense. Là, on a un certain nombre de valeurs qui sont formidables.
Ici aussi en Europe. Voilà.
Ici aussi en Europe.
Et sinon, le reste de la majorité silencieuse des valeurs risque de moins profiter de la conjoncture économique que leur père américain.
La conjoncture discrétionnaire, les télécoms, tout ça, ce sont des secteurs qui...
Vous disiez, les États-Unis éblouissent le monde par leur croissance. C'est vrai, hein, franchement, ils étonnent tout le monde. Ici en Europe, on traîne comme un boulet, effectivement, une très très faible croissance. Et d'après le Handelsblatt, les instituts économiques allemands, IFO, IFW, vont annoncer cette semaine, d'après le Handelsblatt, une très forte révision à la baisse de leur prévision de croissance pour 2024. Elle passerait, la prévision de croissance allemande pour 2024, d'après ces instituts, de 1,3% à 0,1%. Vous vous rendez compte l'ampleur de la révision à la baisse de la croissance allemande.
C'est un super choix fait par Angela Merkel. Quand vous confiez, encore une fois, toute votre demande aux Chinois, quand vous confiez votre énergie aux Russes et que vous confiez votre défense aux Américains, vous êtes dans un phénomène de concentration excessive. On parlait de bipolarisation. Tout est bipolaire en ce moment dans le monde. Eh bien, l'Allemagne, elle est concurrencée, mais frontalement, par la Chine. Elle fournit des matières premières, des machines-outils aux Chinois pour se faire concurrencer sur leur propre segment, c'est-à-dire le segment automobile.
Eh oui, c'est ça.
Mais en même temps, ça, c'est
oui, non, complètement. Est-ce qu'on peut imaginer, dans un instant, on parlera de la séance, hein, on approche de la clôture, mais est-ce qu'on peut imaginer que la note allemande, elle est encore triple A, l'Allemagne, par exemple, Standard & Poor's, qui a confirmé le triple A allemand, est-ce qu'on peut imaginer que cette note soit dégradée ou que la perspective de la note allemande soit dégradée si la croissance ne revient pas en Allemagne? Parce qu'une si faible croissance, c'est autant de prélèvements d'impôts en moins. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà. Alors, bien sûr, budgétairement, en termes d'endettement, etc., ils sont vertueux, mais. À un moment, si la croissance devient structurellement absente, est-ce qu'à un moment, ça pourrait finir par peser sur la perspective de la note allemande quand même ?
Oui, d'abord, si l'Allemagne n'est plus triple A, qui le restera ? Le Luxembourg et la Hollande, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement... Alors, c'est structurel aujourd'hui, mais on a vu les Allemands faire des tournants et réussir à se réinventer. Et ils ont des marges de manœuvre. C'est quand même la grande différence avec d'autres pays, c'est qu'ils ont des marges de manœuvre pour aller à marche forcée.
Pas tant que ça. Ils ont la cour de Karlsruhe qui les empêche de dépenser comme ils le devraient pour investir dans la croissance de demain. La cour de Karlsruhe dit non, il ne faut pas dépenser autant. Donc, ils ont des verrous politiques quand même à leur potentiel.
Oui, mais là, c'est comptable.
On ne peut pas faire ça. Enfin, et puis, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas.
Les constitutions, ça se change, comme on le sait. Alors, en Allemagne, peut-être un peu moins souvent que chez nous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est...
Est-ce qu'à vouloir être plus herbivore que les autres, l'Allemagne finira en steak? Voilà.
Ah ben, ils vont mourir en bonne santé. Mais non, mais c'est un vrai sujet. C'est là où l'Italie avait, avec Mario Draghi, on en parlait tout à l'heure, Mario Draghi avait obtenu quand même une énorme subvention européenne pour se mettre dans les nouvelles technologies, la transition énergétique, vraiment dans tous les thèmes et les sujets intéressants de demain. L'Allemagne n'a pas tellement été sur le sujet. Hein. Et ils sont trop concentrés. Ils sont sur la chimie et sur les machines-outils et le secteur automobile. Oui. Sur le reste, c'est plus compliqué. La France est mieux placée dessus.
La France est mieux placée. Il y a un dicton qui dit « À vouloir être plus herbivore que les autres dans un monde de carnivores, vous finirez en steak. » Bon, oui. Est-ce que l'Europe sera le steak du monde ? Ah, tiens, cette question pourra se la poser dans un instant, juste après un coup d'œil à la séance. Dernière ligne droite. On accélère vers la clôture, vous l'entendez, on est à 16 minutes. Et on la vivra en direct d'ailleurs à 17h35. Et on s'oriente vers une séance de hausse, pour le coup, pour l'Europe. Contrairement à Wall Street, mesdames, messieurs, contrairement à tout ce que viennent de nous dire nos intervenants, c'est aujourd'hui l'Europe qui montre le chemin et l'exemple. L'Europe fait mieux que le marché américain, c'est assez rare pour être souligné. Effectivement, notre CAC 40 gagne 0,1%, alors que le S&P perd aujourd'hui 0,2%, le Nasdaq moins 0,3%. Bon, voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Parmi les valeurs qui portent le CAC 40, la défense, hein, dans le contexte quand même tendu, les attentats de la fin de semaine dernière à Moscou, l'attentat énorme, évidemment. Thalès progresse de 2,2% par exemple. Puis on a un relèvement d'opinion aussi sur Dassault Aviation. Le titre Dassault Aviation est aussi en hausse sur le SRD. À suivre également certains replis, Legrand qui recule d'1,7%. Puis hors CAC 40, on suit Believe. Et toujours cette joute boursière en cours sur Believe. Le titre gagne aujourd'hui 5,5%, 16,70€. On en reparlera tout à l'heure à la clôture des marchés. Vous vous demandez ce que fait Nvidia, peut-être. Rassurez-vous, Nvidia gagne 2% alors que Wall Street est en train de reculer. Comme tous les jours, comme d'hab, Nvidia surperforme le reste du marché. On continue d'en parler avec Daniel Gérino, le PDG de Carlton Selection, Louis de Montalembert, président de Pléiade Asset Management. Messieurs, pour la suite, quel type de valeur est-ce qu'il va falloir privilégier ? On entre dans la période de versement des dividendes, par exemple. Je sais pas, est-ce qu'il faut aller vers les valeurs de rendement ? Est-ce que c'est ça la bonne idée ? Est-ce que, compte tenu des incertitudes et du fait que le marché a déjà bien progressé depuis 1er janvier, c'est sur le dividende qui qu'il faut compter pour trouver de la perf ou voilà, comment est-ce que vous abordez cette thématique-là du dividende et du rendement, sachant que les versements de dividendes vont arriver là?
Bah non, moi j'irai sur des obligations dans ce cas.
Mmh. Ah oui.
Mais bien sûr. Vous avez des rendements qui sont top pour le même niveau de risque. Non, non, je pense que c'est pas le bon plan. Mmh.
Moi, je suis assez peu intéressé par les dividendes de manière générale. Je crois que les entreprises susceptibles de créer de la richesse dans le temps, c'est-à-dire qui affichent de la croissance et qui investissent pour croître dans le temps, sont structurellement plus intéressantes. Mais évidemment, moi, je me positionne toujours en long terme. C'est-à-dire que c'est compliqué d'être tactique et de se dire on va prendre un peu de dividendes ici, puis un peu de croissance demain, c'est un truc à se prendre les pieds dans le tapis. Et donc, je privilégie toujours les entreprises qui vont soutenir leur performance boursière par une performance opérationnelle. Vous savez ce que disait Benjamin Graham, hein ? Il disait, à court terme, le marché est une machine à voter et à long terme, c'est une machine à peser. Donc, moi, mon métier, c'est d'essayer de sous-peser les entreprises pour en dériver le juste poids. Donc, est-ce qu'à court terme, il faut prendre des actions à dividendes, j'en sais fichtre rien. En tout cas, je sais qu'à long terme, c'est la croissance qui crée la richesse.
Ouais. Et la concurrence des obligations dont parlait Daniel face au marché actions, cette concurrence, elle va durer là pour le reste de l'année. On arrive au bout du premier trimestre. C'est vrai que les obligations continuent de rapporter. Ça va continuer, ça va durer, ça va limiter le potentiel des actions, cette concurrence de l'obligataire.
En fait, ça dépend beaucoup d'éléments, mais je dirais que ça dépend de la rareté des liquidités et notamment des financements des États. Moi, je pense que l'un des risques qui pèse aujourd'hui sur les bourses mondiales et les systèmes financiers, c'est des États qui sont incontinents et pro-cycliques, qui ont dépenser en période de croissance économique, enfin quand on voit que les États-Unis sont à 8%, que la France découvre, grande surprise, qu'on est à 5,6% au lieu des 4,9%, je pense que le risque vient de là, ça veut dire des États qui ont besoin d'être financés de manière croissante, des banques centrales qui veulent réduire leur bilan, qui refusent de financer davantage, donc ça c'est un impact sur les taux longs. Donc si on a les taux longs dans le scénario catastrophe que je redoute, et qui n'est pas celui que j'anticipe, mais qui serait le risque porté par les marchés, à ce moment-là, on pourrait avoir des taux longs qui se tendent davantage, donc des obligations qui offrent des meilleurs rendements avec des taux réels qui seraient en hausse, une inflation qui restera sur une tendance, quoi qu'on en dise, baissière. Donc là, on pourrait imaginer que les obligations, une fois qu'on arrive au top, parce que si vous achetez des obligations aujourd'hui et que les taux longs remontent, vous en êtes pour vos frais si vous restez à court terme, hein. Donc je ne suis pas sûr que ça soit une solution aujourd'hui.
Dans un instant, on parlera de la pression chinoise sur AMD et Intel, puisque la Chine envisage d'interdire les puces d'AMD et Intel. Toujours cette bataille entre la Chine et les États-Unis, de laquelle cette bataille, on parlera dans un instant, ce sera dans la data room. Mais d'abord, la question du jour sur nos réseaux sociaux, on va vous la soumettre. Cette question, on vous donne un indice, vous tous qui nous écoutez, le voici l'indice. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'or. C'est de l'or en pièces là qui tombe. Il pleut de l'or en barre, effectivement. L'or sur des records, mesdames, messieurs. Ce soir, l'once d'or est à $2,180, nouveau plus haut historique pour l'once d'or. Il pleut de l'or sur les marchés, les investisseurs se ruent sur l'or. Et cette question qu'on vous pose sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi, vous pouvez chacun vous y abonner. Pour vous, quelle matière première progressera le plus d'ici 10 ans? Est-ce que ce sera l'or? Est-ce que ce sera, tiens, le cuivre, pourquoi pas, le nickel ou le cacao? Le cacao qui signe un sacré début d'année. Daniel.
110% de hausse sur le cacao. Pourquoi?
Attendez, combien?
110% depuis de hausse en year to date sur le cacao.
Donc depuis le 1er janvier, 110%. Janvier. Qu'est-ce qui se passe sur le cacao?
Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a deux producteurs. Côte d'Ivoire, le Ghana. Côte d'Ivoire a une chute de la production, donc les prix flambent. Mais vous ne le sentez encore pas aujourd'hui, donc achetez vos œufs pour Pâques, parce que les prix mettent 6 mois avant d'arriver sur le retail.
Ah oui, parce qu'on voit des sujets dans les médias grand public. Ah, mais le prix des poules en chocolat seront en hausse cette année compte tenu de la hausse des coûts du cacao. Vous dites c'est que le début, quoi. Ça sera pire dans un an.
Oui, c'est que le début, mais par contre ça baissera parce qu'il va y avoir un rééquilibrage. Après, vous aviez alors l'or. Pourquoi l'or monte? Parce que en réalité c'est presque contre-intuitif puisque les taux d'intérêt réels sont redevenus positifs et l'or normalement devrait baisser. Sauf que ce sont les banques centrales qui achètent. Et aujourd'hui, on a un phénomène qui est plus inquiétant sur l'or. Certains le voient à $3,000 l'once. Et ce phénomène, c'est quoi? C'est la traduction du fait que pas mal d'opérateurs ne sont plus confiants dans les devises. Pas dans les actions ou les obligations, mais dans les devises.
Pourquoi?
Ils n'ont plus confiance dans l'euro et ils n'ont plus confiance dans le dollar. Donc ils se réfugient sur l'or. Et les banquiers centraux rachètent de l'or, ils vont baisser évidemment les obligations qu'ils détiennent en portefeuille pour acquérir de l'or.
C'est la dédollarisation du monde, que, enfin dédollarisation relative quand même.
C'est une forme de dédollarisation du monde. Et vous savez ce que disait Warren Buffett, l'or c'est quand même un placement idiot puisque vous passez une énergie folle à le déterrer pour aller le réenterrer dans un coffre. Donc bon, l'or peut continuer à monter. Le cuivre aujourd'hui, nous avons sans doute une poussée, c'est pas terminé. Il va y avoir encore des hausses sur le cuivre. Des hausses sur le nickel, je n'y crois pas parce que le nickel est abondamment fourni par l'Indonésie. Oui. Donc la hausse, elle est toute petite. Ça ne tiendra pas, elle n'est pas à ce niveau-là. Enfin, je pense que ce n'est pas la croissance depuis le début de l'année parce que c'est à 3,5% de hausse.
Non, 13%, c'est le nombre de ceux qui ont voté.
Ah oui,
qui
pensent.
Oui, 13% de
d'accord.
Ceux qui
votent.
Oui,
nous, on voit toujours les performances.
Non, mais j'explique pour ceux qui nous suivent à la radio. On a effectivement dans le grand mur, le grand wall d'image BFM Business, effectivement, ce chiffre 13% en face du nickel. Ce n'est pas du tout la hausse du nickel, c'est le nombre
non,
de ceux.
Parce que l'or a fait 5% depuis le début.
J'explique juste, Daniel, pour ceux qui nous suivent parce qu'ils ne comprennent pas de quoi on parle. 13%, c'est le nombre de votants. Donc, qui ont choisi de voter pour le nickel. Parmi ces matières premières qui, dans les 10 prochaines années, pourraient le plus progresser, 13% d'entre vous avaient voté pour le nickel. Le cuivre arrive devant à 26% et l'or à 44%. Une majorité de 44% vote plutôt pour l'or.
Alors, oui. Moi, je serais plutôt pour le cuivre.
Bon.
Ensuite, l'or. Nickel et enfin caca.
Oui.
Moi, je dirais que, effectivement, l'or traduit, ou les performances de l'or traduisent certainement l'anxiété des acteurs économiques face à l'incontinence dont je parlais des budgets, à un moment ou l'autre. Est-ce qu'on peut continuer à avoir foi dans des États et donc dans des banques centrales qui financent ces États et donc qui augmentent leur bilan? Mais je voterai effectivement pour le cuivre, pour la simple et bonne raison que on est dans une phase d'électrification de l'économie et il y a encore un angle mort de l'électrification, c'est l'IA générative, puisque on sait que c'est très gourmand en énergie. Aujourd'hui, les échanges de données, c'est 2% des consommations énergétiques. En 2030, ça sera 7,5%.